C'est une paracha très très importante, comme vous savez évidemment, parce que c'est la paracha de la sortie d'Égypte elle-même. Une paracha absolument fondamentale. Il y a encore un peu de Makot au début, qui complète celle qu'on a vue dans les parashiot précédentes. Encore trois parashiot, trois Makot qui viennent. Alors, ce qui est important, c'est ce qui est écrit au tout début de la paracha, c'est que Hachem dit à Moshe, Voel Paro. En fait, il lui dit, viens avec moi chez Paro, boss. Ça veut dire, viens avec moi et pas va, en vérité. Et tu vas aller l'avertir des Makot qui viennent. Et je sais, moi, j'ai endurci son cœur, c'est-à-dire que Paro, par rapport à ces Makot-là, c'est un pion, c'est-à-dire que son sort personnel, son cheshbon personnel est déjà complètement terminé. Il y a déjà quelques makot que, en fait, si Hachem ne l'avait pas aidé, il aurait cédé parce que c'est trop douloureux, quoi. Mais qu'Hachem a encore besoin de sa résistance, si on peut parler comme ça. Effectivement, Hachem dit, pourquoi est-ce que j'ai endurci son cœur? Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans cette situation? Lui et ses serviteurs, les man, shiti ototai parce que je veux manifester toutes sortes de signes, mes signes en fait, mais des façons de me manifester, d'intervenir, de faire des signes dans ce pays. Et alors ça, c'est les signes qu'Hachem veut manifester. Et puis, il y a ou le Mahan. Et aussi, afin que... Donc, il y a deux raisons. Une première raison qu'Hachem veut manifester ses signes dans le pays en question, en Égypte, donc. Et puis... Il sait aussi que pour vous, pour l'Ebné Israël, les man te sapèrent pour que tu racontes. Alors, ici, c'est un peu le contraire de ce qui se passe d'ordinaire. D'ordinaire, on fait quelque chose et puis ensuite on le raconte. Mais le récit n'est pas la motivation. C'est pas parce que c'est pas pour le récit qu'on a fait la chose. Or, ici, c'est pour le récit. Donc, Hachem joue sur deux tableaux, si on peut parler comme ça. Il joue sur le tableau de l'Égypte. En Égypte, il veut manifester ses signes. Et puis, par rapport au Bnei Israël, il veut créer un récit. Donc, pour qu'il y ait quelque chose à raconter, ben, je vais faire les choses pour que vous puissiez les raconter. Et le récit, c'est un récit que tu vas faire à tes enfants et tes petits-enfants. Et tu vas faire ce récit de ce que Italalti de Mitzrayim. Italalti de Mitzrayim, Rashi dit, je me suis moqué en quelque sorte. Je me suis moqué, je me suis joué de l'Égypte, en fait. Vet ototaya shasamtivam, et que tu racontes aussi tous les signes que que j'ai manifesté avec eux. Et ainsi, vous saurez qui Ani Hachem. De nouveau, vous saurez que Ani Hachem, et Ani Hachem, c'est toujours, a priori, la même signification. On peut me faire confiance, c'est-à-dire que je sanctionne le bien comme le mal par un salaire positif ou négatif. Tout ça sera dans le récit. C'est un récit de ce que j'ai fait, de que me suis joué de l'Égypte, des signes que j'ai manifestés là-bas. Et la troisième chose, ainsi vous saurez qu'on peut me faire confiance puisque j'ai averti de ce que j'allais faire et je l'ai fait. Donc, c'est important de raconter que j'ai fait ce que j'avais annoncé que j'allais faire. Parce que c'est ça le contenu de notre Emouna. Il s'agit de fortifier, de construire la confiance en Hachem. C'est-à-dire que notre Emouna, donc notre confiance en Hachem, elle est construite sur Yetziat Mitzrayim, sur le récit de la sortie d'Égypte. Alors, il faudra ajouter que le quatrième terme de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire de ce qu'Hachem a annoncé qu'il allait faire, quand le quatrième langage, le quatre lechonot shel Geoula, le quatrième, il parle de Matan Torah en réalité. Non, parce que Matan Torah, c'est l'achèvement. C'est pas quelque chose qui vient après la sortie d'Égypte. C'est une partie, c'est l'achèvement de la sortie d'Égypte. On n'est pas sorti pour être libre au sens de ne pas être esclave, mais on est sorti d'Égypte pour être libre. Et par liberté, on entend, comme Chazal le disent, Chérout, la liberté, c'est Maché, Chérout à la Loukhot, c'est ce qui est gravé sur les Loukhot, sur les tables. La Emouna, elle doit être concrète en quelque sorte. Quelque chose qu'on voit de ses yeux. Le clan d'Israël, à ce moment-là, il a vu qu'Hachem a fait, vu tous ses nissim, tous ses miracles.
Ça souffle,
Donc,
ça
quand on
siffle.
dit, afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils, etc., c'est une connaissance, une yédia. Emouna, en quelque sorte, cette confiance, elle est basée sur une connaissance. Comme dit le Passouk, ici, vidatem, vous saurez, vous aurez ce savoir qui est nié Hachem. C'est intéressant de cette notion de savoir. La yédia, qui est nié Hachem, c'est le fondement de la Emouna. Plus loin dans le Passouk, dans le Perek Yutet et au Passouk Dalet, Passouk dit Atem Reitem Asher asiti le Mitzrayim. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vaessa et Tremel Kanfen Sharim. Et je vous ai transporté, porté sur les, cette expression de sur les ailes de l'aigle. Va vietrem Elai. Et je vous ai amené auprès de moi. Et Rachid dit, Atem Reitem, vous avez vu. Et Rachid dit, Lo masoret yi bietrem, velo bedvarim ani meshager lachem, lo beedim ani meid alechem, el atem reitem asher asiti le Mitzrayim. C'est-à-dire, c'est pas que vous avez une tradition, c'est pas que je vous envoie des gens qui vont témoigner de vous, le clan d'Israël, vous l'avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Donc, la Torah, elle est basée sur le fait que nous avons vu, concrètement, on a vu ce qu'Hachem a fait. Dans le Sefer HaKuzari, Rabbi Yehuda Halevi, il rapporte que, vous savez, c'est un dialogue, c'est avec des questions du roi des Khazars qui pose une question au Chacham, au Juif en fait, et il lui demande pourquoi les musulmans, les chrétiens, ils apportent des preuves pour leur croyance, mima'ase bereshit. Ils apportent à l'appui de ce qu'ils disent, le récit de la création. Alors que vous fondez votre confiance en Hachem sur Yetziat Mitzrayim et sur la Matan Torah, et pas sur le récit de Bereshit. Alors le Chacham lui répond, donc c'est ce que Rabbi Yehuda Halevi répond à ça, que le christianisme et l'islam, c'est quelque chose qui se joue dans leur tête. Donc ils sont obligés de dire quelque chose qui se joue dans la tête. Chez les Juifs, la Emouna, elle est fondée sur des choses sensibles, sur des réalités concrètes. C'est pour ça qu'on amène pour la Emouna des Bnei Israël, les faits concrets dont les Bnei Israël eux-mêmes étaient témoins, Mitzrayim et Matan Torah.
Rav,
Oui.
bonjour, bonsoir, j'ai une question. Justement, enfin, étant donné que la Emouna, elle est fondée sur la Yédia, comment on peut expliquer qu'elle ne s'impose pas à tous? Parce que, enfin, j'ai l'impression que la Yédia, c'est un fait justement qui est tellement concret qu'il ne peut être finalement contredit. Enfin, par exemple, à la sortie d'Égypte, les Makot en Égypte, c'était des phénomènes réels et perceptibles par les sens et qui s'imposent finalement à l'être humain. Et comment on peut expliquer justement l'incrédulité finalement après d'un témoignage qui émane de quelque chose de concret, enfin, comment l'être humain peut finalement se fourvoir et ne pas, enfin, on va dire, faire confiance en quelque sorte à cette valeur épistémique.
On a une transmission, ça venait de père en fils, à partir d'une expérience qui a été complètement vécue à ce moment-là par des Bnei Israël qui ensuite l'ont transmise, mais c'est pas simplement une transmission. C'est pas qu'on a une tradition, on ne sait pas d'où elle vient. On a une tradition, effectivement, une chaîne de transmission de l'expérience que les Bnei Israël ont vécue, une expérience qui est, qui est, elle, fondatrice de la confiance.
Oui, bien
Donc,
sûr.
eux,
Enfin,
ils ont.
peut-être que ma question n'était pas claire, mais je voulais dire, justement, étant donné que cette transmission, elle est fondée sur des éléments très concrets comme les Makot, la Yetziat Mitzrayim, comment on peut expliquer que tant de personnes, finalement, dans l'humanité, n'adhèrent pas, finalement, ou ne font pas confiance à notre témoignage? Enfin, par exemple, aujourd'hui, tout le monde fait confiance à, pas tout le monde. Alors, y a des scientifiques, enfin, des personnes qui sont sceptiques vis-à-vis de la science, mais la majorité des personnes font confiance à la science. Et de la même manière, le témoignage des Bnei Israël, enfin, on peut le considérer comme ayant une valeur justement épistémique forte. Alors, comment justement on va dire, ça ne peut pas faire autant l'unanimité que la science.
Parce que le problème, c'est que cette confiance que nous avons en Hachem, c'est aussi une confiance qui est basée sur Matan Torah. Et dans Matan Torah, ça crée les Bnei Israël ont accepté les obligations. Et les gens n'ont pas tellement envie de se plier à d'accepter des nouvelles obligations. Donc, ils ne veulent pas l'entendre. Ils pourraient nous faire confiance que, voilà, et nous, on leur dit, ben nous, on le sait par transmission. On peut continuer la transmission et le transmettre comme on transmet à nos enfants, on pourrait le transmettre à eux aussi. Mais seulement si on leur transmet ça, qui va de pair avec cela, c'est les mitzvot, quoi, les obligations. Et la Kabbalat Ol Malchut Shamayim, accepter ce qu'on appelle le joug du ciel, ça veut dire, c'est quelque chose que les gens n'ont pas du tout envie. Il y a une résistance, on n'a pas, tout le monde a une certaine résistance, pas tellement envie d'avoir toutes sortes de limitations, on a envie d'être libre au sens de faire ce qu'on veut. Et la Torah, elle vient, elle te donne un nouveau sens au mot liberté, puisqu'elle dit qu'est-ce qui s'appelle chérout, qui veut dire liberté, c'est ce qui est charout à la louchot. Ce sont les lois qui sont gravées sur les louchot, mais ce qui est écrit sur les louchot, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est équivalent à toute la Torah. Donc c'est quelque chose qui nous oblige. Donc, notre émouna, c'est qu'il y a eu une acceptation, à un moment donné sous la contrainte, comme on dit, mais qui a été levée, la contrainte a été levée au moment de Pourim, une acceptation de toutes sortes de règles qui découlent du fait que Hachem nous a sortis d'Égypte et qu'on a défini une nouvelle notion de liberté, si vous voulez, qui n'est pas du tout la liberté de je fais ce que je veux. Non, nous ne faisons pas ce que nous voulons obligatoirement. On a des contraintes et les gens, ils ne recherchent pas les contraintes. Donc, ils ne sont pas intéressés du tout à accepter cette transmission. Ils ne veulent pas. Nous, d'une certaine manière, on peut dire qu'on n'a pas vraiment le choix. Parce que nos ancêtres ont accepté directement. Et bon, jusque-là, voilà, ils ont accepté et nous sommes dans la suite. Il faut évidemment comprendre pourquoi nous sommes engagés par ce que nos ancêtres ont accepté. Mais bon, c'est bien de ça qu'il s'agit. J'y étais pas directement, si vous voulez. Mais indirectement, j'y étais. Parce que mes ancêtres ont accepté ça. Mais les gens qui n'ont pas reçu par leurs parents, etc., et qui devraient l'accepter par nous, Bon, ils disent, nous, on est, non, ça ne nous concerne pas, on n'est pas, on n'a pas envie de cela. On veut bien faire certaines choses, mais on ne va pas aller jusque-là. On ne va pas aller jusqu'à faire tout ce que la Torah, en quelque sorte, demande qu'on fasse.
D'accord, merci.
Bien. Je sais. Bien. Alors ça, c'est le début de... Voilà. Si vous voulez, un nouveau sens de ces makot. Pour ces dernières makot, Hachem annonce qu'en réalité, les makot, elles sont là. Ils ont vu de notre point de vue, pour nous, les Bnei Israël, elles sont là pour le récit. Le récit est fondamental. Donc, mon cher Abbé nous va amener sur l'ordre d'Hachem les deux des trois dernières makot. Et pour la dernière maka, Hachem dit à mon cher Abbé nous, voilà que maintenant, à minuit, Hachem va passer en Égypte et tous les premiers-nés dans le... Chez les hommes comme chez les animaux, tous les premiers-nés vont mourir. Et à ce moment-là, Paro va céder et il va renvoyer les Bnei Israël. Et donc maintenant, on passe au chapitre Yud-Bet 12, où on a la première mitzvah que les Bnei Israël vont recevoir en tant que Klal Israël, donc, mais c'est une mitzvah qu'ils reçoivent. Ils sont encore en Égypte et ils sont encore formellement esclaves de Paro. Vous vous souvenez, on a déjà vu que quand il y aura Makat Bechorot, Paro va dire au Bnei Israël, partez, partez, mais partez tout de suite. Et mon cher Abbé nous dira, non, non, on ne va pas partir de nuit comme des voleurs, on partira en plein jour, d'une part, et deuxièmement, on ne partira pas tant que tu n'auras pas libéré les Bnei Israël de leur statut d'esclave. Un esclave, pour sortir de son statut, il ne suffit pas qu'il s'enfuit, par exemple. Un esclave qui s'est enfui, ben, il n'est pas automatiquement libre. Le maître n'a peut-être plus de possibilité de l'obliger, mais formellement, son statut, c'est toujours esclave. Et pour le libérer, il faut qu'on lui donne un document de libération. Donc Moshe demande à Paro d'écrire un document dans lequel il dit, moi, Paro, Melech Mitzrayim, je libère et je déclare que les Bnei Israël ne sont plus mes esclaves. Et au départ, Paro n'a pas tellement envie de le donner, ce papier. Mais Moshe Rabbeinu lui dit, mais nous, on n'est pas pressés. Et donc la pression à cause de tous les morts qu'il y a à ce moment-là, elle est telle que Paro accepte et il va donner effectivement cet acte de libération. Et c'est ce que nous disons quand nous disons dans la Haggadah de Pessah, que si Hachem ne nous avait pas sortis d'Égypte, on serait encore aujourd'hui, nous et nos enfants, on serait encore aujourd'hui esclaves de Paro. A priori, on peut poser la question, comme il y a eu toutes sortes de révolutions, etc., et on aurait très bien pu se libérer. Mais justement, la réponse, c'est non, on ne peut pas se libérer. C'est-à-dire qu'on peut concrètement se mettre en situation où Paro ne peut plus nous obliger à travailler, mais formellement, nous serions encore des esclaves, on appartiendrait à Paro. S'il y avait un descendant de Paro, il pourrait dire, je suis le propriétaire des Bnei Israël. Ce qu'il ne peut plus dire maintenant, puisque Paro a libéré l'Ibn Israël. Nous avons un acte de libération de notre condition d'esclave. Alors, le premier passouk dans ce chapitre-là, bon, c'est la quatrième montée, la revue. Vayomer Hachem el Moshe vel Aaron. Hachem parle à Moshe et à Aaron. Be'eretz Mitzrayim. On est encore, ils sont encore en Eretz Mitzrayim, comme on l'a dit. Les morts. Pour qu'ils répercutent ce qu'Hachem leur dit au Bnei Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Chodesh Hazeh Lachem, Rosh, ce mois-là est le premier des mois, Rishon Hu Lachem, le Chodesh Hashanah. Il est le premier des mois de l'année. C'est-à-dire qu'Hachem donne ici un nouveau calendrier. Il n'abolit pas l'ancien calendrier. L'ancien calendrier qui commence en automne, il est toujours valable, mais maintenant nous avons un deuxième calendrier avec un nouvel ordre, enfin, une nouvelle origine des mois. Normalement, les mois, ils commencent en même temps que la nouvelle année, quoi. Normalement, le premier mois de l'année, d'après l'ancien calendrier, c'est le mois de Tichri. Alors d'abord, dans la Torah, les mois n'ont pas de nom. Ils n'ont que des numéros. Bon, il y a le premier, le deuxième, etc. Les noms, c'est les noms qui viennent de la période. Les noms que nous avons, Nissan, Iyar, etc., c'est des noms qui viennent des périodes où nous étions esclaves ailleurs. On a emprunté des noms chez d'autres peuples. Des noms babyloniens, chaldéens, etc. Dans la Torah, vous ne trouverez pas de nom pour les mois. Alors ici, cette idée que on a un nouveau calendrier, ça va de pair avec la mitzvah de Kiddush HaKhodesh, c'est-à-dire que les Bnei Israël vont être partie prenante dans la définition du calendrier. Les mois dans la Torah, les mois sont des mois lunaires. Le calendrier n'est pas entièrement lunaire parce que il y a dans la Torah une obligation que Pessah, qui tombe au mois de Nissan, ce premier mois de l'année, que Pessah soit au printemps. Donc, ça veut dire qu'on doit mettre le calendrier en accord avec le développement de la nature. Et par conséquent, il va y avoir une nécessité, étant donné que le calendrier lunaire, il prend 11 jours de retard sur l'année solaire, qui est, elle, une année qui est en phase avec la nature, enfin, en tout cas plus en phase que l'année lunaire. Et donc, de temps en temps, il va falloir ajouter un mois supplémentaire pour vérifier que Pessah soit vraiment au printemps. C'est-à-dire que au mois d'Adar, qui est le dernier mois de l'année, on va examiner l'état d'avancement, l'état de mûrissement de l'orge. Pourquoi l'orge? Parce que le deuxième jour de Pessah, on apporte le corban, enfin le premier jour de Pessah plutôt, là, on apporte le corban à Homer. partir duquel on va compter le Homer, c'est-à-dire les 50 jours qui nous amènent à Shavuot. L'orge, c'est la première céréale qui est mûre en Eretz Israël. Et au mois de Hadar, on va regarder, est-ce qu'a priori, l'orge sera mûre à l'époque de Pessah? Si oui, tout va bien. Et sinon, eh bien, il faut ajouter un mois. Et on va ajouter un mois, un Hadar Sheni, comme on dit. C'est-à-dire, on va insérer entre Hadar et Nissan un mois supplémentaire qui portera le même nom que le dernier mois de l'année. Il y en aura deux qui porteront le même nom. Et cette correction-là, puisqu'on prend hein, 11 jours de retard, en 3 mois, si vous voulez, en gros, on a pris un mois de retard. Et donc, à peu près, avec cette fréquence-là, on va devoir ajouter un mois supplémentaire. Mais comme vous voyez, c'est quelque chose qui va dépendre d'une évaluation. Ce sont les hommes qui vont décider si l'année aura donc 12 ou 13 mois. C'est une des tâches d'Ebné Israël, c'est de veiller à ce que, effectivement, Pessah soit au printemps, c'est-à-dire corresponde avec le mûrissement, par exemple, de l'orge. Mais il y a une autre, quelque chose de plus fréquent, qui est que c'est vrai que un mois lunaire, comme on peut bien le comprendre, il commence avec la nouvelle lune. Mais il ne commence pas avec la nouvelle lune qui serait observée, si vous voulez, à Yerushalayim par un télescope dans le Sanhédrin de Yerushalayim. Et on regarde, ou bien simplement, comme déjà à ce moment-là, on savait calculer le moment où la nouvelle lune était visible. Donc, on n'a qu'à le faire par calcul. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une mitzvah pour le clan Israël d'observer le ciel. Et si quelqu'un voit la nouvelle lune, il se dépêche d'aller à Yerushalayim et d'aller témoigner devant le Sanhédrin, en fait, témoigner pour la nouvelle lune, dire j'ai vu la nouvelle lune. Et on va l'interroger, on va vérifier si il n'a pas confondu la nouvelle lune qui est un tout petit croissant avec un nuage. On va regarder si, d'après le calcul, il est possible qu'il ait vu la nouvelle lune, etc. Et si on a deux personnes, deux témoins de cette nouvelle lune, eh bien, le chef du tribunal va proclamer le nouveau mois commencé, le Koudash. On sanctifie le nouveau mois. Voilà, alors, il va dire, voilà, aujourd'hui, c'est le premier jour du mois. Et les gens qui ont vu la nouvelle lune, chacun fonce à Yerushalayim pour ça. Et pour ça, ils peuvent être Mechalel Shabbat. Ils prennent leur voiture pour arriver plus vite à Yerushalayim pour pouvoir faire cette déclaration. Et le tribunal en question, le Sanhédrin, il est souverain. C'est-à-dire que si le tribunal pense que de dire, comme les témoins le permettent, de dire que le nouveau mois commence aujourd'hui, ça va par exemple entraîner, supposer qu'on est dans la définition du mois d'Eloul, etc., ça va entraîner, dans Tishri, ça va entraîner que Yom Kippour va tomber juste avant ou juste après Shabbat, ce qui ne nous arrange pas du tout. Eh bien, le tribunal va décaler et il ne proclamera le nouveau mois commencé que le lendemain. Il va se décaler. Et la halakha, elle est que le tribunal est souverain, ça veut dire qu'il peut, s'il se trompe, ça n'a pas d'importance, c'est comme il l'a dit, qu'il se soit trompé ou bien qu'il ait volontairement décidé de décaler, que ça plaise ou pas. On a des exemples dans la Gemara, effectivement, d'un conflit entre Rabbi Yoshua et le Sanhédrin, justement. Lui, il avait calculé le nouveau mois à sa manière et il a dû se plier à la décision du chef du Sanhédrin. Alors, c'est une grande mitzvah. C'est une mitzvah qui indique une forme de maîtrise du temps. Alors, le grand moment, si vous voulez, où cette maîtrise du temps se manifeste, c'est par exemple dans la fixation de Yamim Tovim. Yamim Tovim, c'est des rendez-vous avec Hachem. Alors, par exemple, quand Hachem dit Pessah, ce sera le 15 du mois, ou Sukkot, ce sera le 15 du mois, qui est-ce qui dit que ce sera le 15? C'est Hachem. Donc, Hachem nous donne rendez-vous, en d'autres termes, il nous convoque le 15. Donc, c'est un rendez-vous qui se présente, semble-t-il, comme fixé unilatéralement par Hachem. Il nous impose de nous pointer, enfin, de faire Yom Tov le 15. Mais en réalité, avec ce qu'on vient de voir, c'est pas du tout aussi unilatéral que ça semble l'être. Parce qu'en réalité, c'est vrai que Hachem a dit que le rendez-vous aura lieu le 15, mais c'est nous qui disons quand sera le 15. Puisque c'est nous qui décidons quand sera le premier jour du mois. Et donc, c'est nous qui décidons quand sera le 15. Et par conséquent, ce rendez-vous entre le Klal Israël et Akadosh Baruch Hu est un rendez-vous qui a été fixé par les deux parties ensemble. Hachem dit, c'est le 15, mais nous disons quand sera vraiment le 15. Donc c'est une puissance fabuleuse, bon, qui est donnée au clan d'Israël de définir une certaine maîtrise du temps. Alors, ce qui est remarquable, c'est que cette mitzvah-là qu'il leur est donnée, c'est une mitzvah qu'il leur est donnée alors qu'ils sont encore esclaves. Comme je vous ai dit, formellement, ils sont encore esclaves. Ils ne travaillent plus pour Paro, mais ils sont encore esclaves. Or, un esclave, qu'est-ce qui caractérise un esclave? C'est justement qu'il n'est pas maître de son temps. Si vous voulez, un esclave qu'on a de toute manière pas le droit de faire travailler de façon exagérée, etc. Donc, qu'est-ce que. Enfin, ce qui le distingue de quelqu'un qui travaille, d'un ouvrier ordinaire, c'est que lui, il ne peut pas choisir son emploi du temps. Supposez qu'il y ait un esclave qui est en charge des jardins du palais. Eh bien, son maître, lui, il a décidé, ah, demain, c'est bien, demain, je m'occupe des rosiers. Et le maître lui dit le lendemain, non, aujourd'hui tu fais les vitres. Il ne peut pas. Donc ce n'est pas quelqu'un qui peut choisir son emploi du temps. Justement, on a donné à ces gens-là qui étaient encore esclaves, en quelque sorte, la mitzvah qu'il est, en tant que tel, qu'il les met au-dessus. Il fait d'eux des gens qui choisissent leur temps. Donc la condition d'Ebné Israël passe de esclave, pas du tout maître de son temps, à complètement maître de son temps, maître du calendrier et maître de son temps d'une certaine manière. C'est un peu symbolique. Les Bnei Israël ne peuvent pas dire venir le 15 du mois et dire on a trouvé la nouvelle lune, bien entendu. Enfin, bon, tout ça, c'est sur un jour de décalage. Mais bon, le principe est là. C'est une liberté qui est donnée au Bnei Israël. Et une fois que la fixation du temps, le nouveau calendrier est donné, et bien tout de suite, ce premier mois, les Bnei Israël reçoivent une autre mitzvah, une mitzvah particulière, qui est ce qu'on appelle Korban Pessah. C'est une mitzvah qu'ils reçoivent et qu'ils vont faire d'une certaine manière, et qui va devenir aussi une mitzvah le Dorot, qui va devenir aussi une mitzvah qui va être faite, qui va être pratiquée par les générations après eux. Pas exactement de la même manière, mais y ressemblant beaucoup et portant quasiment et portant le même nom. Korban Pessah. C'est un Korban Pessah. C'est un Korban qui porte le nom de quoi? Il porte le nom justement de ce que Akadosh Baruch Hu, quand il a frappé les premiers-nés d'Égypte, il a en quelque sorte passé par-dessus les maisons des Bnei Israël et il n'a pas tué les Prorot des Bnei Israël. En anglais, ça va presque mieux qu'en français. En anglais, on dit pass over. C'est vraiment passer par-dessus. Alors, c'est une mitzvah qui leur dit qu'ils vont manger un korban, ils vont faire un korban, ils vont le manger. Ça, c'est pas extraordinaire de faire un korban, de le manger. Les idolâtres, ils font la même chose. Seulement, ce korban-là, il va obéir à des règles bien précises et il va jouer un rôle que les autres korbanot dans le futur, les korbanot ne joueront pas ce rôle-là. Celui-ci, il joue un rôle particulier parce que les Bnei Israël reçoivent un ordre. Hachem leur dit, voilà, on a défini un nouveau mois. Ce nouveau mois, qui commence, à Chodesh Hazeh Lachem, eh bien, le 10 du mois, ils allaient mettre de côté un agneau ou un chevreau. Et vous allez en choisir un par maison, ou par maisonnée, si vous voulez. Et si jamais vous êtes très peu nombreux dans cette maison, et que ce corban, vous allez devoir le manger. Et tous les corbanotes sont toujours caractérisés par une limitation dans le temps et dans l'espace. Dans le temps et dans l'espace, ça veut dire il y a un endroit bien précis où vous pouvez le manger. Il y a des corbanotes qu'on peut manger juste dans le Beth Amikdash ou bien seulement sur le Harabaït ou dans Yerushalayim, etc. Et puis, il y a une limite de temps. Le corban doit être mangé dans une certaine limite de temps. Et donc, si vous devez faire un corban, et alors normalement un corban, il doit être mangé dans cette limite de temps. C'est pas que ça veut dire qu'il faut l'avoir complètement mangé. Alors bien sûr, s'il en reste, on va le brûler, mais a priori, il faut pas en laisser. Alors si vous êtes deux personnes et que vous avez l'agneau que vous avez acheté, il est un peu grand, vous n'arriverez pas à le manger, mais alors vous avez qu'à vous associer avec des gens, des voisins, des amis, etc., ou bien un groupe de célibataires qui décident les gens de la synagogue, les gens avec lesquels vous étudiez, etc. Donc, on va prendre un agneau qu'on va acheter en commun et vous allez vous l'acheter le 10 du mois et vous allez en faire la shrita et le manger, etc. Pour ça, il va falloir attendre le 14. Alors, qu'est-ce qu'on fait entre le 10 et le 14? Vous allez attacher l'agneau en question au montant de votre lit, quoi. Vous allez ostensiblement donc l'entraver pour qu'il puisse pas s'en aller. Et quand les Égyptiens vont vous demander, mais qu'est-ce que vous allez faire avec cet agneau? Alors vous allez lui dire, ben, on va en faire la shrita et on va le manger. Or, l'agneau, il fait partie des idoles égyptiennes. Donc, il faut vous imaginer que vous allez faire ça avec une vache sacrée en Inde. Quand vous attachez une vache sacrée en Inde et le premier hindou qui vous interroge, vous lui dites, ben, on va en faire un méchoui avec ta vache sacrée. Bon, c'est pas sûr que vous finirez la phrase, quoi. Vous coupez la tête avant, quoi. Ben, c'est ce que les Bnei Israël doivent faire pour bien manifester que ils ne respectent pas les règles de l'idolâtrie, quoi. Ils ne sont plus idolâtres. Alors, la vérité, c'est que quand Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte, Yaakov, en fait, il leur avait dit, vous allez vous installer à Goshen, dans la province de Goshen, où là-bas vous allez être des bergers. Et comme les Égyptiens, ils aiment pas tellement les bergers et tout ça, donc ils vous embêteront pas là-bas. Et donc, vous allez profiter de l'Égypte, vous allez apprendre tout ce qu'on peut apprendre de l'Égypte, mais vous allez revenir régulièrement chez vous et donc pas être influencé de façon trop négative par l'Égypte. Mais bon, comme on sait, les Bnei Israël ne sont pas restés en Goshen, ils sont allés dans tout le pays. Donc, il y avait un problème d'assimilation. Les grands problèmes, le grand problème de l'Égypte, c'était que, bien sûr, il y a la science, il y a l'art, les arts, etc., de très bonnes choses, mais il y a l'idolâtrie et il y a les mœurs égyptiennes. Et donc, il y avait ces deux risques-là d'assimilation par rapport à ces deux grandes avérotes. Et donc, les Bnei Israël, en ce qui concerne les mœurs, ils ont très bien réussi. Ils se sont complètement gardés. Il n'y avait pas de problème. Par contre, dans l'idolâtrie, ils sont tombés. Tombés dans l'idolâtrie. Et comme vous savez bien, même au moment du passage de la mer, ils sont accusés par les anges d'être des idolâtres. Et Hachem ne dit pas que ce n'est pas vrai. Ils sont effectivement, d'une certaine manière, encore idolâtres, malgré cette procédure de Korban Pessah qu'ils ont faite, qui manifeste que ils n'adhèrent plus à l'idolâtrie. Mais le Maasé, ils ont fait les gestes et tout, mais le problème de l'idolâtrie n'est pas réglé du tout.
À la culture égyptienne, de revenir en ce pèlerinage prochain, mais tu as un petit peu, c'est qui l'a fait?
C'est
C'est qui l'a fait?
Jacob avait leur avait dit, vous allez rester à Goshen. Ils sont pas restés. Pardon? Yosef aussi, il avait dit, vous allez dire que vous allez être à Goshen. Il savait très bien que c'est un exil, donc il y a un risque d'assimilation. C'est le problème de l'exil, c'est l'assimilation. Enfin, il y a deux possibilités. C'est ou bien on nous tue, ou bien on nous tue spirituellement. Et la question, c'est, il faut essayer d'éviter d'être tué, aussi, et que, ni concrètement, ni spirituellement. Et si vous voulez, c'est ce qui s'est passé, ça a donné Purim et Hanouka. Donc, l'Ebné Israël, l'idolâtrie, ça ne s'est pas complètement réglé, mais il y avait déjà une manifestation ici, montrer qu'on est contre l'idolâtrie. Enfin, on n'adhère plus à l'idolâtrie. Et puis on leur dit, vous allez griller ce Corban Pessah et vous allez le manger. Et vous allez le manger, si vous voulez, dans la hâte, sur le pas de la porte, avec, comme on dit, les chaussures aux pieds, la ceinture, le bâton, etc. Ils sont prêts à partir. Ils mangent et ils partent. Pour manifester cette hâte de partir. Alors, il y a une. Nous, on va effectivement manger aussi le Corban Pessah, aussi comme on dit, chipazon, c'est-à-dire à toute vitesse ou aussi vite. Alors, on verra comment s'exprime pour nous par la suite la notion de chipazon. Nous, on mange pas le Corban Pessah sur le pas de la porte. Si on veut donner quand même il y a une halakha dans le Corban, il y a beaucoup d'halakhot le Corban Pessah qui sont toutes significatives. On peut en donner une qui est intéressante, qui est que l'agneau en question, il est dans sa première année, donc il peut être aussi petit qu'on veut. On peut imaginer, c'est un agneau très très petit et qu'une seule personne pourrait manger, avec un gros appétit, pourrait manger la viande de cet agneau. Mais il y a une halakha qui dit qu'on ne fait pas la shrita du Corban Pessah pour une seule personne. C'est-à-dire, le Corban Pessah, il ne peut se manger que en chaboura. Qu'en groupe. Deux personnes, c'est déjà un groupe. Mais quelqu'un tout seul ne peut pas manger le Corban Pessah. Même à supposer qu'il ait un appétit qui lui permettrait de manger ce tout petit agneau qu'il a acheté. Donc c'est très important qu'il faut tout ce que représente le Corban Pessah, on n'a pas dit grand-chose pour l'instant, mais. Ça ne se, ça, le Corban Pessah, il ne peut pas se penser autrement que manger en groupe. Alors, juste une remarque. Cette notion de groupe, elle est très importante ici parce que les Bnei Israël étaient des esclaves. Et un esclave, c'est quelqu'un qui est, même si en fait, il peut avoir de la famille et tout, mais surtout quand il est soumis à la torture à laquelle les Bnei Israël étaient soumis à ce moment-là, il en est à chercher son souffle. Donc à ce moment-là, il n'a pas de relation avec les autres. Chacun est pour soi. Chacun essaie de trouver son souffle. Chacun va essayer de trouver un morceau de pain, etc. Donc ça favorise pas du tout les relations. Et donc là, vraiment, le Corban va obliger de fabriquer des relations. Parce qu'on ne va pas manger le Corban Pessah tout seul.
Grave. J'ai une autre question en ce qui concerne justement le groupe. Pour Yetziat Mitzrayim, on fait confiance justement à cette transmission parce que Matandora a été fait auprès d'une collectivité. Mais qu'est-ce qu'on appelle une collectivité? À partir de combien de personnes? Est-ce qu'il faut deux personnes, trois
Si à
personnes?
partir de deux personnes, à partir de deux personnes, c'est un groupe.
D'accord.
Donc, ça vient exclure seulement la personne seule. Dès qu'il y a deux
D'accord.
personnes, c'est déjà un groupe.
Mais pour un témoignage, en l'occurrence, c'est différent en général.
Le témoignage, ce n'est pas une notion de groupe. C'est parce que dans la Torah, il est écrit que Alpish Naim Edim Yakum Davar. La chose, elle tiendra s'il y a deux témoins, deux ou trois témoins, c'est-à-dire ou plus, quoi. En général, il faut deux témoins, mais sur toutes sortes de sujets, par exemple, tous les problèmes de savoir est-ce qu'on peut faire confiance à une personne qui dit cette chose-là est cachère, oui, on n'a pas besoin de deux témoins. Si on avait besoin de deux témoins, vous pourriez plus manger chez vous, quoi. Votre mari ne pourrait pas manger chez vous. Il pourrait pas vous faire confiance que c'est cachère, puisque vous êtes seul témoin. Donc, ce serait assez gênant. Va peut-être s'arranger, mais voilà, il faudrait deux témoins à chaque fois. Et dans Issourim, dans ce qui est permis, interdit, un témoin suffit.
D'accord.
Mais pour des
Et
questions
en tout cas,
de temps, par exemple, il faut deux témoins.
d'accord. Et pour la, alors par exemple pour la sortie d'Égypte, s'il y avait eu que deux, admettons que deux personnes, ça aurait suffi pour la transmission ensuite à toutes les générations?
Oui, a priori, la transmission, elle commence, ça a commencé comme ça. Abraham, c'est lui et Sarah, ils sont deux, qui transmettent à Yitzhak et Rivka, qui transmettent à Yaakov, qui lui maintenant a plus que une seule femme. Et donc, on passe à plusieurs. Mais le début de la transmission, c'était un couple. Un couple transmet à un autre couple.
D'accord, merci.
Donc, les Bnei Israël reçoivent cette mitzvah de manger le Korban Pessah. Et puis, ce qui est marqué, c'est que le Korban Pessah en question, vous allez le manger al matzot umrorim. Vous allez le manger avec des matzot et avec des herbes amères. Très bien. Nous aussi, on mange. On n'a plus de Korban Pessah aujourd'hui, mais on mange des matzot. Et nous disons, dans la partie de la Haggadah, il y a une partie de la Haggadah qui est quelques mots qui sont très très importants. Le fameux Rabban Gamliel Omer. Rabban Gamliel disait que tout celui qui n'a pas dit Pessah, Matzah ou Maror, lo yatsa ide chovato, il ne s'est pas acquitté de son obligation. De quelle obligation il ne s'est pas acquitté? Pessah, Matzah, Maror, c'est les choses qu'on mange. Donc s'il les a mangées, il s'est acquitté de l'obligation. Mais s'il n'a pas expliqué ce que sont Pessah, Matzah ou Maror, il ne s'est pas acquitté de l'obligation du récit dans la Haggadah de Pessah. De la même manière que, par exemple, s'il a lu toute la Haggadah de Pessah en hébreu, mais qu'il n'a rien compris à ce qu'il a lu, c'est évidemment pas acquitté de l'obligation. Un récit, c'est pas une performance de lecture. C'est un récit. C'est évident que si on ne comprend pas la Shna Kodesh, il faut lire la Haggadah en français, si on comprend le français. bien, dans le texte de la Haggadah, vers la fin du récit, on dit que Rabban Gamliel dit que celui qui n'a pas raconté Pessah ou Matzah, il n'a pas dit Pessah, Matzah ou Maror, il n'a pas expliqué. Et alors, on explique que Matzah, on mange la Matzah pour une drôle d'idée, qui est qu'on dit, c'est parce que nos ancêtres, ils n'ont pas eu le temps de faire monter la pâte. Parce qu'ils sont partis dans la presse, partis dans l'urgence, et ils ont dû cuire la matza avant que elle ait le temps de monter. Et ça, hein, c'est une drôle d'explication. Premièrement, parce que on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas préparé, ils n'avaient pas le temps. Depuis le 10 du mois, ils savaient, depuis Rosh Chodesh même, ils savent que ils vont devoir manger le Korban Pessah avec des matzot. Ils n'avaient qu'à les préparer, leurs matzot. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps? Ça, c'est une question. Et puis le problème, c'est que quand les Bnei Israël, en Égypte, ils ont mangé le Korban Pessah avec des matzot, ils l'ont mangé, ça c'était avant qu'ils s'en aillent. Donc ils avaient des matzot depuis longtemps. Donc si l'enfant avait demandé à ce moment-là à son père, pourquoi on mange des matzot avec le Korban Pessah, le père il pouvait pas lui répondre, c'est parce que plus tard, on va manger, on n'aura pas le temps de laisser monter la pâte. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est les grosses questions. Et puis, il y a une autre question. C'est que nous, quand on mange les matzot, quand on mange les matzot, on mange des matzot. Mais à ce moment-là, on n'a pas le droit d'avoir du chametz chez soi. Mais si les Bnei Israël avaient eu le temps de faire monter la pâte, ben ils auraient mangé à ce moment-là leur Korban Pessah avec une pâte levée. Et comment c'est possible? C'est du chametz. Bon, là-dessus, il y a toutes sortes de réponses halakhiques, etc., assez techniques, donc on ne va pas entrer là-dedans maintenant. Mais à la question de savoir pourquoi ils n'ont pas préparé en avance, on ne s'occupe pas du problème du Hametz pour l'instant. Je crois une des réponses, enfin celle que je préfère pour l'instant, c'est de dire qu'en réalité, s'ils n'ont pas préparé, c'est parce que préparer du pain pour partir, en fait, ils n'ont pas préparé parce que d'une certaine manière, ça n'avait pas de sens pour eux. Il faut comprendre que quand on a dit aux Bnei Israël qu'ils allaient sortir d'Égypte, alors d'abord, il y a 4/5 du peuple qui a dit non. 80% des gens. Pourquoi ils ont dit non? Parce qu'il fallait être très audacieux pour accepter de sortir. Tu vas sortir, tu vas aller où exactement? Même si on te parle d'une terre, tu vas aller où? Tu vas aller crever dans le désert? Non, merci. Je préfère rester esclave, mais vivant en Égypte. Et ceux qui ont accepté de partir, ils ne savent pas où ils vont. C'est une confiance aveugle dont Hachem va dire dans la bouche du prophète Yirmiya, Zachar tilach chesed neoraïch. Me souviens en ta faveur de la générosité que tu as eue à mon égard. Tu m'as suivi. C'est Hachem qui parle. Tu m'as suivi dans le désert. un endroit où il n'y avait aucune chance d'avoir à manger. C'est une confiance aveugle. C'est pas très raisonnable. Alors, en vérité, même ceux qui sont sortis, la sortie d'Égypte n'avait, ça voulait rien dire. Si on vous dit aujourd'hui qu'on vous invite à une excursion dans le Grand Nord, alors vous allez dire, bon, alors, quand il fait froid ici, je mets deux pulls, je vais en prendre quatre. On a une idée, mais sortir d'Égypte, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va... C'est impensable. Donc ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas préparé parce que c'était pas possible. C'était pas concret. OK, on va y aller, mais on fait aucun préparatif parce que c'est presque comme si ils n'y croient pas. Ils vont y aller, mais... Et à la dernière minute, par une espèce de réflexe. Alors, ils ont fait un peu de pain parce que c'est une espèce de réflexe. Celui-là, il n'a pas eu le temps de monter, effectivement. C'est-à-dire qu'en vérité, la matzah, elle représente l'impensable. Avec, voilà, quelque chose de d'archi minimum, on a fait confiance. On va, il nous garantit qu'on va survivre, mais on n'a aucune idée de comment. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, c'est la réalisation de la promesse qu'Hachem avait faite. Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu de leur dire qu'il allait les sortir d'Égypte et il leur a dit les choses en utilisant quatre verbes. Je vais vous sortir d'Égypte. Je vais vous sauver de l'Égypte, je vais vous libérer et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Quatre verbes. Et donc on décrit la sortie d'Égypte comme quelque chose qui se déroule en quatre temps. La libération n'est pas un phénomène, un événement qui a lieu à un moment bien précis. C'est un processus progressif. Au départ, on dit, je vais vous sortir d'Égypte. Sortir de ce pays où on vous fait des travaux, on vous impose des travaux difficiles. C'est des sivlot Mitzrayim. Et ensuite, je vais vous sauver, mais avodatam. Je vais vous sauver de la condition de avadim. Vegaalti etchem. Et je vais vous libérer. On voit très bien que, ce dont on a déjà parlé, sortir de la condition d'esclave, être libre, ce sont deux choses différentes. Et quatrièmement, je vais vous amener à Matan Torah. Je vais vous donner la Torah. Ces quatre moments dans la libération, ces quatre moments qui correspondent à quatre degrés d'agressivité des Égyptiens à l'égard des Bnei Israël quand ils les ont réduits en esclavage. Au début, on leur a simplement imposé les travaux. Voilà, la communauté juive doit produire des travaux, voilà, travaux. Ensuite, on les a réduits à l'esclavage. Et on a même la réduction en esclavage, c'était effectivement que le cas échéant, on va les tuer. On va tuer, c'est l'époque où Pharaon a donné l'ordre aux sages-femmes de tuer les enfants dans le ventre de leur mère, les garçons dans le ventre de leur mère. Comme ça n'a pas marché. Parce que ces femmes ont été d'un courage incroyable. Résister à Paro, c'est incroyable. C'est même on peut se demander pourquoi Paro les a pas tuées, quoi. Il faut juste avoir présent à l'esprit que en Égypte, c'était censé être un pays avec des lois. On ne pouvait pas tuer les gens comme ça. C'est pour ça qu'il a passé il a dit aux sages-femmes, vous allez tuer les enfants dans le ventre de leur mère. Au départ, on n'assume pas du tout que on va les tuer. Ils sont morts, c'est mort-né. Il y a une épidémie qui fait que les enfants, ils sont morts-nés. Comme ça n'a pas marché, alors on va donner des ordres et on va noyer les enfants, les garçons. C'est le troisième niveau. C'est-à-dire, cette fois-ci, ils sont obligés de les noyer. Alors, est-ce qu'on a raconté qu'il y avait une épidémie, que c'était éventuellement contagieux et qu'il fallait les tuer pour ça? Et qu'on a dit ouvertement dans la loi, on a dit on va tuer tous les garçons, mais les décrets d'application, c'est qu'on ne tuait que les garçons des Bnei Israël et pas les Égyptiens. Et le quatrième point, le moment où ils n'en peuvent plus du tout, où ils sont, c'est quand Paro a décidé que on ne leur fournirait plus la paille pour fabriquer les briques. Ils devront aller la chercher eux-mêmes. Mais les Bnei Israël, avant cela, ils étaient déjà ric-rac. Ils étaient à la limite de ce qu'ils pouvaient produire. La quantité de briques qu'ils devaient produire était faramineuse et voilà, ça les épuisait complètement. Et si maintenant il fallait encore aller chercher la paille, aller dans les champs pour chercher la paille, les Bnei Israël ils n'ont pas réussi. Et du coup, ils ne produisaient pas la quantité de briques qu'ils étaient censés produire. Et Paro a convoqué les responsables. Et il a dit à ces gens-là, ça va pas. Les responsables ont dit, mais ils n'ont pas la force, c'est pas possible. Paro a dit, on va les punir, on va les frapper. Et les responsables ont dit, écoutez, frappez-nous, mais ne les frappez pas eux. C'est-à-dire, ils se sont sentis responsables, ils étaient en empathie avec les pauvres travailleurs, ils ont pris sur eux de se faire battre. Pour éviter à leurs frères, mais ceux qui étaient vraiment au travail, de se faire battre. Ces gens-là, avec ces deux qualités de responsabilité et d'empathie, quand par la suite mon cher Abbé nous va demander à Hachem de lui donner une aide et qu'on va choisir des gens pour aider Moshe, hein, ce sont ces gens-là qui vont être choisis. C'est eux qui vont aider Moshe. Parce qu'ils se sont en quelque sorte qualifiés par ce sens des responsabilités et cette empathie. Et donc, les quatre lechonot de Géoula correspondent aux quatre niveaux d'esclavage. Le premier niveau de Vehotseti, je vais vous faire sortir de cet endroit où on vous fait travailler de façon insupportable. Ça correspond effectivement au travail qui a été imposé au peuple d'Israël au commencement, avant qu'il soit vraiment complètement esclave. Mais en même temps, ça correspond aussi, ces correspondances, ça correspond aussi aux quatre exils. Le premier exil, c'est l'exil en Perse, exilé en Babylonie. Ça, c'est la première expérience d'exil d'Ebné Israël. L'exil égyptien, il compte pas, parce qu'il n'y a pas de peuple à ce moment-là. Ils vont devenir un embryon de peuple en Égypte, mais ce n'est pas un peuple qui est exilé. La première fois où l'Ebné Israël, qui jusque-là était des sujets d'un roi, deux rois, etc. D'un coup, ils sont exilés. C'est la première expérience d'exil. Donc, ça c'est le. Je vais vous sortir de cette première expérience où on vous a imposé quelque chose que vous n'aviez jamais eu à faire. Le deuxième, lachon, c'est-à-dire vous allez. Je vais vous sortir de votre condition d'esclave. C'est une condition d'esclave qui était telle que on pouvait tuer leurs enfants. Donc, je vous sors de la condition d'esclave. Et l'exil qui correspond, c'est l'exil perse. L'exil perse, il n'a pas duré très longtemps. Mais il y a eu, durant cet exil perse, il y a eu la première solution finale. Il s'est soldé pour nous par zéro mort. Il y a eu l'histoire d'Aman. C'est-à-dire, on voulait nous tuer complètement, physiquement. Le troisième, c'est-à-dire, je vais vous libérer. Gaalti etrem. Ça correspond au fait de, disons ça, dans le négatif, c'était la réduction des Bnei Israël, situation où, effectivement, on les empêchait de vivre. Comment? En les noyant. L'eau, c'est la vie normalement. D'accord? On est. Le corps humain, c'est de l'eau, beaucoup d'eau. L'eau, c'est la vie. Mais il y a un usage de l'eau qui peut être tellement mauvais. On peut noyer les gens. C'est ce qui a été fait dans ce troisième niveau d'esclavage. Donc, dans les termes, ça veut dire je vais vous libérer complètement. Et dans l'exil, c'est l'exil grec. La Grèce, c'est très beau, la Grèce. C'est les arts, c'est la philosophie, la science, etc. C'est comme l'eau, parfait. Mais il y a une partie dans la civilisation grecque qui est, pour l'Ebné Israël, qui est mortelle. C'est les mœurs. Et c'est l'idolâtrie. C'était ça, donc, cet exil-là. Et le quatrième exil, qui correspond au quatrième langage, je vais vous amener à la véritable liberté, celle de Matan Torah. Ça correspond à quoi? Ça correspond à l'histoire de la paille. Qu'est-ce qu'elle faisait, la paille? Le fait de devoir aller ramasser la paille, les Bnei Israël qui étaient regroupés, qui travaillaient, là maintenant, chacun est obligé de partir de son côté pour aller chercher de la paille. Et non seulement chacun part de son côté, mais il va y avoir une concurrence. Parce que la paille que A a trouvée, eh bien, B, il a peut-être aussi convoité cette paille, et A est arrivé avant, c'est lui qui l'a prise. Donc, il va y avoir de la compétitivité, etc. Ça correspond au quatrième exil. Le quatrième exil, c'est l'exil sous les Romains, où les Bnei Israël sont dispersés, justement. L'Empire romain était tellement important, tellement grand qu'on a été dispersé sur tout l'Empire romain. Et du coup, il n'y a plus la Torah et la Halakha en un. C'est plus du tout regroupé. Tout est dispersé, en fait. Et dans la dispersion, c'est difficile de construire la solidarité, etc. Qu'est-ce qui nous rassemble? C'est la Torah. Comme enseignait Rabbi Tzadia Gaon, nous ne sommes un peuple que par le fait que nous avons la Torah, la même Torah. Pour le reste, nous sommes ce qu'Hachem a dit à Yaakov Avinu, tu seras Kahal Amim, tu seras une assemblée de peuples. On voit très bien que les Bnei Israël, ils ont gardé, tout au long de leur histoire, ils ont gardé la structure tribale. Franchement dit, quand on réfléchit, quand ils arrivent en Eretz Israël, on pourrait imaginer, ben voilà, on va supprimer les différences entre les tribus, fabriquer un peuple. Pas du tout. Ils arrivent en Eretz Israël, ils prennent 7 ans pour partager la terre d'Israël selon les tribus. Et après, effectivement, de réaction de tout le peuple ensemble, toute la période des juges, c'est l'alliance de 3 tribus ensemble, 4 tribus, 2 tribus, etc. Mais il n'y a pas de réponse générale, commune. Il va y avoir un peu d'unité avec David, Shlomo HaMelech. Mais après, il va y avoir de nouveau, il va y avoir le schisme. On va de nouveau partager le clan d'Israël en deux. Deux parts inégales, mais en deux. Ça, si vous voulez, c'est la correspondance entre l'esclavage, le chenote, les expressions de la libération et les 4 exils. Et on peut aller plus loin parce que du 4, c'est à la fois les 4 lettres du tétragramme. Il y a beaucoup de choses que. C'est le pardès, il y a beaucoup de choses. Mais bon, il faut travailler pour savoir si vraiment on peut tout ramener toujours à cette structure quaternaire, si vous voulez. Ok, on va s'arrêter là. Vous pouvez dire les Tehillim comme si je vous en empêchais.
Yosef, vous êtes réellement le seul Sadarishonan. Omar l'a donné au Marcin, oui, soudain.